On est le samedi 13 juillet, 8h du matin, on est place Stalingrad. Il n'y a personne et en fait, il y a une vingtaine de vélos. Et avec cette vingtaine de vélos, il y a des gens qui ont que des surnoms, Sable, Noisette, Lowai. Et avec tous ces gens-là, on paramèle. Et la Clé des Ondes va réaliser un reportage quotidien. Et donc, on part pour la grande manifestation. C'est parti.
Ensuite, aujourd'hui, donc c'est la plus grande étape. Elle fait 70 km. On part d'ici, on va jusqu'à Prignac et Marcan, qui est à 40 km. Là, on retrouve Alerte Pesticides de Gironde et le syndicat de rivière du Moron. C'est une zone Natura 2000. Et on va manifester avec eux. En fait, c'est eux qui organisent la manifestation. Ils profitent du fait qu'on soit là pour être en nombre. Donc, il faut qu'on parte au plus tard à 8h30, mais vraiment au plus tard. On a 40 km. On ne sait pas trop à quelle vitesse on va se déplacer là. Donc, on verra. Qu'ai-je donc à dire au niveau juridique, en fait, bon, normalement, là, on n'a pas d'action qui nous amènerait à avoir des risques. Mais je vous ai distribué à toutes et tous un papier. On a deux avocats qui nous suivent, au cas où, si on est plusieurs en garde à vue. Je rappelle juste, est-ce que vous avez bien tous votre pièce d'identité ? Parce que alors il y a beaucoup de convois qui sont partis. Les trois convois qui sont déjà partis depuis deux jours, ils sont tous fait contrôler. Donc un s'est fait contrôler pour l'identité, un a passé 4h30 au commissariat pour des tags. Et le troisième, ils avaient une manifestation devant l'usine Volvic et il y a eu un arrêté préfectoral démis une journée avant pour pas qu'ils aient le droit de se réunir. Donc important d'avoir cette position.
On a
les
banderoles.
En médiatrice avec les forces de l'ordre, en fait, c'est source. Ça, c'est super important, en fait, se taire. Et dire à ces sources, notre médiatrice force de l'ordre, et en fait, si on rencontre les forces de l'ordre, c'est elle qui va s'en charger. Tout ce qu'on dira ou tout ce qu'on fera, c'est-à-dire tout ce que tu dis, le gendarme ou le policier, il l'enregistre. Donc, surtout, on ne dit rien, je n'ai rien à déclarer. Et je renvoie vers source. Et de même pour nos actes, c'est-à-dire que si on se rebelle ou si les choses comme ça, ça s'est pris contre nous. L'avocat nous l'a bien spécifié. Laissez aller, laissez faire.
Voilà, on reste hyper zen en fait et on dit rien et voilà. Et puis après on négocie et après l'avocat, je lui ai demandé s'il y a un gros souci, on peut l'appeler au moment où on est avec les forces de l'ordre pour qu'il puisse aussi nous conseiller lui. Et derrière, voilà, derrière on a quelqu'un qui peut être là en soutien au cas où.
Des questions pour la partie juridique ?
Non. Donc garde à vue, c'est pour ça que vous avez le numéro de téléphone. Il a accepté que je le diffuse à tout le monde. Il n'y a pas de base arrière comme ça se fait d'habitude. Là, vous avez le numéro, comme ça vous êtes autonome. Et s'il y a un souci, vous l'appelez et vous voyez avec lui.
Il est quelle heure là ?
10h39.
10h39, premier contrôle de la gendarmerie. Voilà. Donc. Il faut
sortir les pièces d'identité.
Allez, on n'est pas des touristes comme les autres, hein.
Vous êtes éco-terroristes, monsieur. C'est bien connu.
On pourrait faire comme un voyage organisé, il y a quelqu'un qui prend toutes les...
Pourquoi ils prennent en photo, par contre ?
Donc là, ils font des photos de nos cartes d'identité. Donc sagement, on monte notre carte d'identité.
Bonjour.
Bonjour.
Parfait, merci. Vous êtes le gendarme ?
Oui, oui.
Oups, tenez, merci.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va où après les photos ? Enfin, c'est des photos que vous prenez ?
Ouais, mais c'est juste pour nous, comme ça on a les identités, nous.
Ok, d'accord.
C'est pour avoir un... pour répertorier toutes les identités, donc...
Ok. Voilà.
C'est quoi c'est, on vous a demandé de faire des contrôles d'identité du coup au niveau.
Oui,
ouais, c'est. Par là, c'est les. Allez. C'est les renseignements territoriaux quand.
Amis policiers, laissez-nous passer, on veut pédaler, laissez-nous bouger. Tu n'es pas censé de nous contrôler, de nous demander où sont nos papiers. Où sont nos papiers volatilisés?
On avance.
Le travail que nous faisons, nous, Alerte Pesticides, qui est parti donc de la pollution de l'air environnant et puis de la pollution et de ses conséquences sur la santé humaine, c'était ça nos problématiques de départ, puisque notre association s'est montée juste après l'incident de Villeneuve-de-Blaye, je ne sais pas si vous vous souvenez, 2014, il y a 10 ans. Donc une vingtaine d'élèves sont pulvérisés dans leur école par deux viticulteurs qui sont en train de traiter autour. Et donc c'est ce qui a fondé notre association, c'est l'idée que plus jamais ça, et qu'il fallait à tout prix protéger tout le monde, mais d'abord les enfants, de ces produits. Donc à partir de là, nous on a commencé à travailler de plus en plus souvent sur la qualité de l'eau. On travaille beaucoup avec le réseau FNE sur les pesticides et l'eau, parce que tous les pesticides ne réagissent pas de la même façon avec l'eau, et d'ailleurs pas de la même façon avec l'air. Certains sont volatiles, d'autres sont solubles, d'autres sont hydrosolubles, et les conséquences ne sont pas les mêmes. Mais on retrouve, ici comme ailleurs, partout, par exemple, le lindane, qui est un pesticide interdit depuis 1998, et que l'on retrouve aussi dans l'air de Bordeaux, que l'on retrouve partout, partout en France. C'est pas seulement lié à l'agriculture, puisque la SNCF a son rôle. Elle a trempé dans le lindane tous les... Non. Allez. Les traverses.
Les traverses de bois.
Les traverses de bois sur lesquelles qui sont posées sur le ballast. Voilà. Et ce qui nous intéresse aussi dans ce site, il y a eu des analyses qui ont été faites. Et c'est donc de ça dont on s'entretenait tout à l'heure. Je vais finir là-dessus. C'est sur les différents pesticides présents dans les eaux de surface, mais aussi présents, s'ils sont présents dans les eaux de surface, parfois on les retrouve assez vite dans les eaux un peu plus profondes, hein, dans les nappes destinées à la ressource humaine. On les retrouve dans les fleuves, dans les rivières. Il y en a un qui est ici, omniprésent dans le bassin du Moron. C'est pas une molécule, c'est un élément, on pourrait dire, naturel, c'est l'arsenic. D'où peut venir l'arsenic? Il y a un taux dans une des rivières du bassin versant qui s'appelle le Brouillon.
Et même d'autres.
Oui, mais dans le Brouillon, je crois que c'est le record. Plus de 4 fois la norme admissible sur le plan environnemental d'arsenic. Alors il y a des endroits en France où il y a des mines d'arsenic, où il y a des gisements d'arsenic, puisque c'est naturel. Il n'y en a absolument pas dans la région. Mais l'arsenic ici peut venir d'un produit qui a été abondamment utilisé dans la vigne, qui s'appelle l'arsenite de sodium, qui a permis, qui servait à lutter contre l'esca, c'est une maladie des pieds de vigne qui est redoutée beaucoup par les viticulteurs. Et cet arsenite de sodium a été répandu un peu partout, a provoqué des tas de morts. Le père de Valérie Murat, que vous connaissez peut-être, qui s'est beaucoup battu pour la reconnaissance post-mortem de la maladie professionnelle de son père, est mort à cause de l'arsenite de sodium, qui a été interdit dans beaucoup de pays d'Europe depuis 1961, mais qui n'a été interdit qu'en 2001 en France, et en plus avec une autorisation pour finir les stocks, parce que des fois que ça se perdrait, hein, et qu'on aurait perdu de l'argent là-dessus. Et donc cet arsenite de sodium a fait des dégâts énormes au niveau de la santé des viticulteurs dans la région.
Donc Grégory Epo, moi je suis paysagiste chercheur, j'ai été recruté au syndicat dans le cadre d'une mission autour de la trame verte, donc des continuités écologiques, avec une collègue qui s'occupe donc avec une stratégie affirmée de par son directeur et du syndicat, effectivement de ne pas se limiter juste aux lits mineurs des cours d'eau pour améliorer leur qualité, mais avoir une réflexion plus globale et transversale, d'où le fait de mobiliser des compétences de paysagiste. L'idée, là, pour nous, aujourd'hui, enfin, telle qu'on l'avait échangé avec Sylvie, si on comprend bien, c'est que vous allez traverser des territoires Et en fait, vous allez monter en compétence sur des problématiques autour de la question de l'eau sur tous ces territoires traversés au niveau national, et vous allez les rassembler à Mel. Et à Mel, vous allez pouvoir partager toutes ces questions. Donc, notre intervention là d'aujourd'hui, c'était juste de vous présenter sommairement ces questions-là. Là, on a déjà eu deux entrées physico-chimiques sur la qualité de l'eau. Ce que je vous propose, c'est de dézoomer un petit peu et d'essayer de comprendre un petit peu les caractéristiques, parce que tout réseau hydromorphologique va être dépendant de différentes conditions, hein, pédologiques, mais aussi géologiques. Et ça permet aussi de comprendre un petit peu quelles sont après les manières dont les humains peuvent s'approprier la ressource en eau, qui est un petit peu la thématique, j'imagine, de votre convoi.
Que cette approche, en fait, est très, très réductrice. Et donc, il faut bien avoir en tête cette notion de bassin versant qui est bien, bien, bien plus large que cette approche linéaire. J'espère que c'est à peu près clair.
Oui. Pour faciliter la représentation, une vallée montagnarde, on voit bien que si elle tombe d'un côté ou de l'autre d'une pente, elle va aller sur un exutoire différent. Voilà, ben c'est ça un bassin versant. En fait, c'est l'ensemble d'une goutte d'eau qui va tomber sur un ensemble géographique. Toute cette eau va avoir un seul exutoire. Et c'est pour ça qu'on parle de bassin versant de ruisseau ou de rivière. Et donc là, nous, le syndicat, on s'occupe de 10 cours d'eau. Du plus petit, ou un des plus petits, vous voyez, ça peut être tout petit, un bassin versant. Au plus grand, c'est le Moron, c'est sur lequel, je vais vous le montrer, on se trouve à l'heure actuelle. Mais donc, vous voyez, ça fait une grande entité d'ensemble, et ça représente à peu près, pour le gestionnaire, 400 km de cours d'eau, dont on a la charge. Okay.
Un débit moyen pour le cours d'eau. Et alors, vous voyez aussi, je reste sur les aspects quantitatifs, vous voyez des dépôts de sable très conséquents. Ça, c'est une caractéristique de nos cours d'eau. On a sur la partie amont des sols très sableux. Ce qui fait que dès qu'il y a de l'érosion, on retrouve ces sables sur la partie plus en aval. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce cours d'eau a été assez malmené pendant des années par des pratiques de curage. Mais comme beaucoup de cours d'eau en France, à l'époque, c'était une vision très, très hydraulique. Il fallait que l'eau parte au plus vite.
Descende vite.
Et en fragilisant les berges, ce qui s'est produit, c'est que les érosions de sable ont été bien plus conséquentes, massives. Et aujourd'hui, on a sur certaines parties du Moron plus d'1,70 m d'épaisseur de sable. Ce qui fait que finalement, l'eau, vous la retrouvez. Quand on creuse, d'où ma photo, chaque été, ça devient maintenant presque obsessionnel, je creuse pour retrouver l'eau. Mais très souvent, l'eau, on la retrouve, mais elle est sous le sable, en fait. En sous-écoulement. Sauf que cette situation, évidemment, pour la vie biologique, vous comprenez bien que c'est un impact drastique.
Voilà, c'était un petit moment de ce qu'on a vécu, et on reviendra demain. Et bien, on sera sûrement aussi accompagné par les gendarmes. Allez, à bientôt sur la Clé des Ondes et sur toutes les radios du monde.
De l'eau, viens nous rencontrer, on pourra parler. Un,
sans savon, sans savon.